Bonjour, alors bienvenue dans ce délicieux petit espace intimiste. Je vais vous présenter donc la brillante, la talentueuse et la merveilleuse Catherine Dufour, au cas où vous ne la connaissiez pas. Alors le programme stipule qu'elle est une des plus brillantes de sa génération, c'est très probablement vrai. Alors je vais rappeler brièvement sa biographie. Elle est informaticienne de métier. Elle est également chroniqueuse au monde diplomatique et elle a commencé sa carrière par un texte qualifié de fantaisie urbaine. On reviendra sur le qualificatif en question en ce qui concerne ce texte précis, intitulé « Quand les dieux buvaient ». Alors, ce n'est pas les dieux en soif d'Anatole France qui rappellent peut-être à certaines et à certains de fort mauvais souvenirs, mais il s'agit bel et bien « Quand les dieux buvaient », une véritable épopée sur Dieu et sa bande, et sur le diable. Alors, en science-fiction, on change complètement d'atmosphère, plus de parodie, plus d'ironie, mais au contraire, un certain sérieux avec le goût de l'immortalité qui a raflé tous les prix possibles, y compris le GPI, hein, à cette occasion. Je rappelle que Catherine Dufour est une des rares personnes assignées de sexe féminin par la société civile qui ait obtenu le Grand Prix de l'imaginaire. Elles doivent être 3 ou 4 depuis 1974. Donc c'est dire à quel point ce prix est féminisé dans ces différents avatars, hein, puisqu'il y en a 7 ou 8 chaque année. Alors donc je parlais du goût d'immortalité, de l'accroissement mathématique du plaisir, également un autre roman de science-fiction, c'est des nouvelles, hein, c'est des nouvelles. Et récemment, chez Fayard, elle a écrit des choses un petit peu différentes. Alors une sorte de, c'est pas une trilogie, mais bon, La vie sexuelle de Lorenzaccio. Alors tous ceux qui auront lu Lorenzaccio se sont peut-être posé des questions sur la vie sexuelle de Lorenzaccio. La réponse est dans ce petit livre d'édition Mille et une nuits. L'histoire de France pour ceux qui n'aiment pas ça. Et les petites filles qui ne veulent pas devenir princesses que le libraire ne m'a pas donné. Alors il m'a donné deux exemplaires de Blanche-Neige et les lance-missiles. Donc le voici en poche. Et voilà un deuxième exemplaire de Blanche-Neige et les lance-missiles. Et voici le goût de l'immortalité avec une couverture qui évoque effectivement le caractère assez sombre de cette histoire. Alors Catherine, tu es informaticienne de métier. Est-ce qu'il y a un lien pour toi avec la science-fiction et avec l'intelligence artificielle? On viendra peut-être à ça dans un second temps. Donc est-ce que pour toi ton métier d'informaticienne est en rapport avec ton travail de science-fiction?
Je voulais revenir sur... Non, je reviendrai après, je réponds directement à ta question. Donc oui, pour moi, il y a un lien très net entre le monde de la science-fiction et le monde de l'informatique. Je passe au Karcher.
Oui.
Bon. C'est qu'il y a beaucoup de garçons. Quand il a fallu que je choisisse une carrière, j'ai été naturellement davantage attirée par ces milieux-là que par des milieux comme... je ne sais pas, les métiers de la santé, où il y a énormément de filles. Voilà, c'est un tropisme et je l'ai suivi et je m'en suis toujours très bien portée. Je crois qu'il y avait aussi chez moi, du fait de mon éducation, une absence totale de conscience du fait que ce n'était pas des métiers féminins. J'ai découvert ça beaucoup plus tard, les blocages qu'il peut y avoir pour les femmes dans certains métiers. Donc j'y suis allée tout naturellement parce que ça m'amusait. Voilà, c'est le gros lien entre... les deux appétences, c'est quand même la présence massive de garçons jeunes, ce qui, quand on est une fille jeune, car j'étais jeune à l'époque, peut paraître extrêmement attirant.
Mais ça me paraît une bonne réponse pour l'intérêt que peuvent avoir les filles à faire des métiers masculins. Hein. Je pense que c'est une chose à laquelle on peut penser. C'est simple, mais efficace. Alors, malgré tout, informaticienne, alors, bon, le thème, vous le savez, c'est l'intelligence, si possible artificielle. Est-ce que tu as un rapport particulier avec cette intelligence artificielle dans tes ouvrages? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, l'intelligence artificielle?
Oui, de toute façon, en tant qu'écrivain de science-fiction, c'est forcément quelque chose d'intéressant. Moi, ce qui m'intéresse davantage que l'intelligence artificielle pure, parce qu'il y a de très bons livres qui traitent d'intelligence artificielle pure, je pense à pas mal de livres d'Orson Scott Card, où il essaye d'imaginer ce que ça peut être que la constitution psychique de quelqu'un qui... tout en ayant une conscience, n'a jamais été humain. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de partir de l'humain pour savoir ce que ça peut devenir. Donc cette plasticité est intellectuelle et psychique, mais elle est aussi physique, en ce sens où, à partir du moment où on vous rajoutera un jour un troisième bras ou une troisième jambe, parce que ça vous permettra de courir plus vite, votre cerveau va forcément évoluer. Et ça m'intéresse beaucoup, en ce sens où je pense qu'on n'en est pas loin. J'ai exploré ça dans pas mal de mes livres de science-fiction, notamment dans un qui s'appelle Outrage et Rébellion, où j'ai imaginé, j'ai pris les projections de Greenpeace à 100 ans. Et donc, si on en croit Greenpeace, qui est quand même une association qui a, il faut le dire, assez peu de morale, dans 100 ans, on sera dans un monde absolument épouvantable. On ne pourra plus sortir, se promener au soleil, parce que ça sera comme se promener dans son micro-ondes, il n'y aura plus d'ozone, etc. Tout sera pollué. Donc, on se retrouvera forcément à vivre en vase clos. Donc, on aura une possibilité d'exprimer notre joie musculaire très limitée. Donc, on va probablement vivre dans des monades, puisqu'on sera extrêmement nombreux. Il y a des projections absolument délirantes en 2050. Une population qui passerait à 50 millions d'êtres humains, un milliard d'êtres humains. Bref, il faut loger tout ça, on logera tout ça en hauteur. Donc, on obtiendra probablement des gens qui seront très musclés de la cuisse supérieure, parce que c'est les muscles avec lesquels on monte et on descend, et qui seront mous de la fesse, parce que ça, c'est les muscles avec lesquels on se promène à plat. Donc, à partir de là, va forcément y avoir une modification des zones du cerveau. Et puis, quand on vit dans un petit espace étroit avec plein de gens, soit on s'entretue, soit on fuit dans des mondes virtuels. On a déjà bien commencé. Donc, on pourra avoir des avatars. À ce moment-là, effectivement, il y aura une perte de tonicité musculaire. Il y aura probablement un développement de certaines zones du cerveau qui ne le sont pas encore tellement. Il y aura peut-être une hypertrophie des pouces à force de faire du joystick. On s'ennuiera beaucoup, donc il va falloir, on ne pourra pas profiter du monde extérieur. Donc il va falloir qu'on s'amuse avec soi-même. Donc j'imagine que avec les projets de la biotechnologie, on va pouvoir se faire tout un tas d'implants rigolos. J'avais pensé notamment à une multiplication des zones érogènes. On pourrait, par exemple, être tout couvert de clitoris, comme ça, dès qu'on s'ennuie dans la salle d'attente de son dentiste, on se gratouille un peu derrière le genou et on se fait plaisir. On pourrait changer de sexe absolument tous les jours, on pourrait changer de couleur d'yeux, on pourrait changer de pharynx pour pouvoir changer de voix si on a envie de chanter une fois comme soprano et puis une fois comme ténor. Moi j'ai l'impression qu'il y aura de toute façon une plasticité croissante du corps qui va induire une plasticité croissante du cerveau. Et évidemment, il y aura tous ceux qui seront à la traîne, parce que très certainement, un des prochains progrès qu'on aura, qui c'est déjà le cas, c'est le fait de ne plus mourir, mais d'avoir une existence qui se prolonge au-delà des 100 années, du minimum syndical requis de 100 années. Alors, pour le moment, on n'arrive pas à grand-chose, en sens où effectivement l'espérance de vie recule, mais l'espérance de vie en bonne santé, elle recule pas tant que ça. Si jamais vous prenez un livre, j'avais trouvé ça à la bibliothèque de l'Académie française d'ailleurs, et que vous regardez les courbes de mortalité en 1800. Alors vous avez une très forte mortalité entre 0 et 2 ans. Ça c'est simple, la moitié des gamins qui crevaient au moment du sevrage. Et puis ensuite, les gens arrêtaient de mourir. Et ils recommençaient à mourir en gros à 50 ans. Et après, vous avez la courbe qui fait comme ça, et hop, on remeurt, et là, pouf, on ne meurt plus puisque tout le monde est mort. Voilà, le combat s'arrête de combattre. Vous prenez la même courbe maintenant, vous n'avez plus du tout cette mortalité, du moins dans nos beaux pays, entre 0 et 2 ans. Les gens, effectivement, arrêtent de mourir à partir de 10 ans jusqu'à justement quel âge. À quel âge est-ce que tout d'un coup la courbe remonte et on se remet à mourir? On est passé de 50 à 58 ans. C'est-à-dire que les maladies graves, invalidantes et qui entraînent la mort, nous tombe dessus non plus à 50 ans, mais maintenant à 58. Alors, il est évident qu'avec les progrès de la science, on arrive à prolonger beaucoup d'existences qui sinon auraient été terminées à 52 ou 53 ans. Mais le corps humain n'a pas encore franchi un cap lui permettant de vivre en bonne santé au-delà de la soixantaine et de vivre tout court au-delà de 100. Et un des gros problèmes là-dedans, c'est la perte d'intérêt vital par l'émoussement des capteurs. Vous êtes relié au monde, ça n'a d'intérêt de vivre que parce que vous avez des capteurs en bonne santé. Voilà, c'est-à-dire que vous avez des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et puis une bouche pour goûter. Et vos capteurs, ils se dégradent, ils se dégradent. Vous ne vous rendez plus compte, mais là, à l'âge que vous avez tous, quel qu'il soit, vous ne voyez plus du tout les couleurs étincelantes et magnifiques de votre enfance. C'est le cerveau qui en permanence rame pour vous restituer des couleurs et des sons dignes de soi. Et à un moment, vous remarquerez chez les vieilles personnes, vous avez l'impression qu'elles ont du mal à se concentrer, c'est qu'en fait, la grande capacité de leur puissance cognitive rame pour arriver à leur ramener des informations cohérentes. Plus on vieillit, plus le cerveau est mobilisé par la restauration des capteurs, jusqu'à un moment où le cerveau n'arrive plus à restaurer grand-chose, et à ce moment-là, il y a une perte de contact avec le monde. Or, on arrive effectivement à soigner un certain nombre de maladies, mais restaurer des yeux et des oreilles, ça, on n'y arrive pas bien, sachant que la relation avec le monde, c'est 80% par la vue et 20% par l'oreille, et donc, à mon avis, il y a des pouillèmes de pourcents avec le toucher, l'odorat, etc. Tout ça pour en venir au fait qu'on n'a pas fait beaucoup de progrès réels pour prolonger la vie de façon satisfaisante, mais j'imagine que d'ici peu de temps, on va peut-être y arriver. À ce moment-là, on en sera malheureusement encombré de gens qui auront 200 ans et qui auront encore des pouvoirs décisionnaires sur Terre. Or, quand vous avez une cartographie intellectuelle, psychique, qui a été faite dans les années 2000, très probablement en 2100 ou en 2200, on ne sera plus capable de comprendre les enjeux. Donc j'imagine un personnage qui dit, voilà, nous, le patron de notre boîte, c'est le même depuis 200 ans, donc là, on est en Chine en 2300. C'est le même, c'est monsieur Kim, il est là depuis 200 ans. Et le problème, c'est que quand on lui montre un multisexuel qui a... des foufounes tout le long de la jambe, qui a trois yeux, dont un à l'intérieur de la tête. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise, lui qui a vécu à l'air libre avec des gens qui mouraient avec la couleur d'yeux avec laquelle ils étaient nés, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise, à part « mais brûlez-moi ça ». Et tout d'un coup, cet homme s'entend répondre « brûlez, non, non, ça va consommer de l'oxygène ». Donc il y a probablement une cartographie psychique qui se crée à la naissance, et qui aura beaucoup de mal à évoluer. Même quand les corps pourront évoluer, je ne pense pas que le cerveau puisse se modifier au-delà d'une... Ouais, je crois que, ouais, comme dit Saint-Exupéry, on est de son enfance comme on est d'un pays. C'est-à-dire que peut-être qu'on ne l'aime pas et qu'on trouve et qu'on s'y ennuie beaucoup, mais malheureusement, on y est rattaché. Et cette plasticité-là, à mon avis, sera la prochaine frontière de l'immortalité. C'était quoi la question des...
Je ne sais plus. En tout cas, là, on vient d'avoir une sorte de résumé de l'intrigue de ton roman en question, Outrage et Rébellion. C'est exactement ce problème-là qui est posé. Les vieux mâles chinois, en l'occurrence, vivant dans une tour et les autres vivant dans des espaces abominables, dans les souterrains. Enfin, une ville verticalisée. Un peu comme dans Rome Xerox.
Un peu comme partout.
Oui, un peu comme partout, finalement. Oui, un peu comme dans... Et effectivement, le problème de l'humain, en tant qu'il est un problème d'organe, quoi. Moi, j'ai envie d'ajouter à ce que tu dis, que si on vivait 150 ans, tout le monde s'en dialyse. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais les limites humaines sont quand même assez importantes encore. Et donc, il y a une difficulté à dépasser le corps humain que tu as parfaitement évoqué. On a toujours entendu parler de grands centenaires hein, à l'époque de Platon, des choses comme ça, ou encore au 19e siècle, quand on passait un certain nombre de caps, on arrivait à tenir parfois très longtemps. Mais comme tu dis, la courbe n'a pas changé, c'est-à-dire que concrètement, l'humain reste l'humain, pour l'instant, fort limité. Enfin, on n'en est pas encore au monde que tu décris dans Outrage et... Ah oui, alors j'avais oublié de présenter Outrage et Rébellion. Mon erreur a été...
Alors, Outrage et Rébellion, c'est vraiment un prétexte pour mettre en scène, justement, toute cette problématique de la plasticité et physique et psychique.
Bon, alors donc, j'en arrive à cette question moi, ce qui m'avait frappé en lisant, peut-être au départ, quand les dieux buvaient, que j'ai du mal à qualifier de fantaisie urbaine. Je ne sais pas ce que tu penses ce mot de fantaisie urbaine. Est-ce que tu trouves que c'est une fantaisie urbaine? Tu qualifierais quand les dieux buvaient de fantaisie urbaine ou de... Bon, pour moi, c'est une parodie, enfin une fantaisie parodie, si ça peut exister.
Oui, alors c'est purement parodique. Donc, c'est une trilogie en 4 volumes. Ça s'appelle Quand les dieux buvaient. Ça met surtout en scène d'abord les mauvais agissements d'un démon nommé Bill Gates qui veut mettre le monde en coupe réglée et qui y arrive. Et là-dedans se débattent comme elles peuvent des fées qui ils sont très exactement qu'est-ce qui se passe une fois que on a épousé le prince charmant et qu'on n'a plus qu'à vivre jusqu'à 100 ans en faisant beaucoup d'enfants. Qu'est-ce qui se passe si finalement la belle au bois dormant se rend compte qu'elle préfère les femmes? Qu'est-ce qui se passe si le prince charmant se barre avec Cendrillon? Donc c'est, unique, enfin, c'est un univers parodique, c'est un univers qui est très copié des Monty Python et de Hitchhiker's Guide to, comment dire, le guide du routard galactique. Je crois qu'on n'a plus le droit de dire le guide du routard d'ailleurs, parce que routard c'est copyrighté. Donc c'est vraiment inspiré comme ça de Douglas Adams, des Monty Python. Et il y en a 4 tomes où on suit la vie trépidante de fées qui... essayent de survivre dans des mondes de plus en plus en déshérence. Donc à un moment, elles ne savent plus où poser leur tente. Alors elles s'installent dans le bois de Boulogne et elles prennent des déguisements adaptés à la faune locale. Elles finissent effectivement en 2400... Non, là, elles se cachent dans les Carpates parce que l'une des rares espèces qui survit sur Terre, c'est les vampires, qui sont très résistants. Ils résistent à tout, les vampires. Voilà. Donc il y en a 4 tomes, et est-ce qu'on peut appeler ça de la fantaisie urbaine? On va appeler ça comme ça, parce qu'il faut bien mettre une étiquette, mais c'est plutôt de la fantaisie drôlatique.
Oui, ça contient une forme de parodie de Tolkien, puisqu'à un moment on voit tous les héros de Tolkien qui font toutes les bêtises possibles, qui se mettent sur la plus haute tour et qui font du feu, histoire de bien se faire repérer par les méchantes bestioles. Oui, voilà, c'est des Nazgûl. Et donc on voit les fées derrière qui disent « mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes d'aller se mettre en haut d'une tour alors qu'ils pouvaient se planquer comme ils pouvaient dans la vallée. Non, non, il faut qu'ils se mettent au point le plus haut, etc. » Donc les fées sont derrière à essayer de réparer toutes les erreurs des héros qui continuent leur quête improbable.
Alors non, elles n'essayent pas de réparer les erreurs. Elles essayent de leur manger leur dîner. En fait, ça m'est venu en regardant avec mes enfants Le Seigneur des Anneaux. J'ai dû regarder chaque film 80 fois. Ceux qui ont des petits-enfants savent comme il est difficile de trouver des films regardables à la fois par les enfants et par les parents. Donc quand on en trouve, on les regarde assez souvent. Surtout que les enfants sont très, très, très névrotiques à ce niveau-là. Une fois qu'ils aiment bien un film, il ne faut qu'on ne le regarde pas qu'une fois. Et donc à force de le regarder, je me suis aperçue qu'à chaque fois que Sam Gamgee commence à faire un dîner, il leur tombe dessus soit des Nazgûl, soit un Oliphant, soit la totalité des orques du Mordor. Et à chaque fois, je me suis dit, mais c'est dommage, c'est le dîner qu'ils laissent derrière eux. Et donc, j'ai imaginé, effectivement, ma bande de fées qui trouvent à manger à l'œil en les suivant. Et qui les aident, ouais, non, qui font la poubelle, quoi, derrière.
Donc, les enfants, c'est important dans ta réflexion. Là, j'en tiens à l'histoire de France pour ceux qui n'aiment pas ça. On sent l'expérience derrière de quelqu'un qui a des enfants et qui voit, disons, la bêtise des programmes scolaires et les choses qu'on leur impose. Je me suis demandé si la vie sexuelle de Renzaccio, ça venait pas d'une lecture des chérubins et des chères têtes blondes de Lorenzaccio, dont on sait que c'est l'œuvre au programme par excellence. Hein, certains d'entre vous ont dû le subir plusieurs fois au cours de leur scolarité parce qu'il est constamment remis au programme. Et finalement, ton dernier livre, qui est le livre sur les petites filles qui ne veulent pas devenir princesses, alors là, ils ne l'ont pas trouvé à la librairie, donc ça s'appelle « Guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas devenir princesses ». Est-ce que tu voudrais en dire deux mots de ce « Guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas devenir princesses »
Bien sûr, je vais vous en dire plus que deux mots, d'ailleurs. Oui. Donc, pour essayer d'éclaircir un peu les choses, moi j'ai fait 4 tomes de fantasy relatique, parce que j'en avais envie. Ensuite, j'ai fait de la science-fiction pour qu'on prenne au sérieux. Donc, c'est une grosse réflexion, effectivement, sur l'immortel. J'ai imaginé le monde dans 100 ans parce que ça m'angoissait. Je me suis interrogée sur les problématiques d'immortalité parce que ça m'intéresse. Et j'ai placé dedans 2 romans, Goût d'immortalité, Outrage et Rébellion. Alors, il y en a un qui est plutôt écrit à l'imparfait du subjonctif par une petite dame très calme, qui est une psychopathe, mais ça on comprend à la fin, là je viens de spoiler. Et l'autre est plutôt raconté par une bande de jeunes drogués, en tout cas ceux qui ont survécu, ça c'est Outrage et Rébellion. Voilà, donc si vous voulez offrir ça à quelqu'un d'un petit peu racine, mieux vaut le Goût de l'immortalité, parce qu'Outrage et Rébellion, c'est quand même uniquement de la drogue et du sexe.
Et de la musique.
Et de la musique, oui. J'ai aussi fait un recueil de nouvelles, c'est l'accroissement mathématique du plaisir, où il y a toujours une réflexion sur ces problématiques de cartographie psychique, d'immortalité. Et puis ensuite, Moi, je fais les livres qu'il est nécessaire que je fasse, c'est-à-dire que c'est pas moi qui décide, c'est eux qui viennent me dire il faut que tu m'écrives. Donc, je suis passée chez Fayard parce que mon fils de 10 ans est venu me voir et m'a dit « Maman, Napoléon, c'était avant ou après Charlemagne ?» Alors, j'ai fait comme la poule, j'ai fait « Brrr !» et j'ai pondu un livre. En fait, on l'a écrit ensemble. Il est jaune, terriblement jaune, et en format poche, il est rouge, terriblement rouge. Donc, mon fils, il n'aime pas l'histoire, je lui ai écrit une histoire de France et j'ai essayé évidemment de prendre les anecdotes les plus drôles. Au début, je voulais le faire, on l'a écrit ensemble pour, parce que justement, moi, je commence à vieillir, donc j'ai plus des références de jeunes. Quand je lui dis World Trade Center, il n'y comprend rien. Parce qu'un jeune, c'est pas World Trade Center, c'est Tour Jumelle qu'il connaît. Donc on l'a tout relu ensemble pour que les références soient pour jeunes. Mais par contre, quand j'ai voulu le faire paraître en jeunesse, on m'a dit, alors, ça va être possible, mais il faut enlever toute la politique et tous les bébés morts. Ceux qui ont fait un peu d'histoire savent que parler d'histoire, sans parler de politique, c'est pas facile, et sans parler de bébés morts, c'est juste impossible. Jusque 1950, vous pouvez pas parler des gens sans parler du fait qu'il y en avait quand même 8 sur 10 qui mouraient avant l'âge de 10 ans. Donc j'étais obligée de me transporter chez un autre éditeur, qui n'était pas un éditeur jeunesse, mais qui était le très sérieux éditeur Fayard, qui a bien voulu de moi, ce dont je suis ravie. Et puis ensuite, je me promenais à un moment de Noël dans les rayons jouets, j'ai ramassé un catalogue. Alors, vous avez les plages bleues. Alors sur les plages bleues, vous avez des motos, vous avez des bateaux, vous avez des boîtes de petits chimistes amusants. Et alors vous avez les plages roses. Et les plages roses, vous avez des épluchettes, des balayettes, des verres passés et des robes de princesse. Voilà, donc une petite fille. Ah oui, et puis alors il y a les poupées. Alors moi à mon époque déjà elles parlaient, elles marchaient. Et elles faisaient déjà pipi caca. Mais là, maintenant, elles font leurs dents. Voilà, donc c'est des poupées qui braillent tout le temps. Et je me suis dit, c'est pas possible, on va faire quelque chose. Et j'ai décidé d'écrire le guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse. Donc, j'ai pris tous les métiers rigolos, c'est-à-dire les métiers très masculins. Et c'est quoi un métier très masculin? C'est un métier dangereux. Ou c'est un métier qui rapporte plein de pognon. Donc, il y a cosmonaute, chercheuse d'or, star du rock, il y a mafieuse, il y a tortionnaire. Et ça, c'est parce que c'est important de montrer que les femmes aussi peuvent être des salopes. On ne le dit pas assez. Informaticienne, physicienne, prix Nobel, génie. Bon. Et j'ai fait pour chaque métier deux bios. La bio d'une pionnière et la bio d'une femme d'aujourd'hui. Et donc je suis allée les voir, donc, je leur ai envoyé leur bio par mail, je les ai rencontrés, il y en a plein qui ont répondu, Michel Perrault, qui est super, enfin bref, Michel Houdin, qui est une grande mathématicienne, il y a Michel Perrault, il y a comment Ariane Mouchkine, qui est femme de théâtre, enfin, il y en a pas mal qui ont répondu, elles sont toutes très sympathiques, elles sont toutes hyper modestes, et du coup je me suis fait plein de copines, donc c'était vraiment un livre à double détente, double plaisir. Et il y a 40 fiches comme ça, et effectivement, évidemment, je suis intéressée dans l'affaire, mais c'est bon à offrir. Voilà, une bonne lectrice à partir de 12 ans. Et c'est pas tellement pour choisir de faire cosmonaute ou chercheuse d'or, parce que finalement, quand on met le nez dedans, c'est peut-être pas aussi facile que sympa qu'on le dit, mais pour donner des idées marrantes. Voilà, avoir juste envie de prendre des risques. Et aller voir hors de ce qu'on vous propose et qu'on propose encore actuellement, parce que moi je croyais que c'était fini, mais le coup de sur des livres pour apprendre à lire et à écrire, où on montre monsieur avec sa pipe devant sa télé avec madame en train de faire la vaisselle, ça existe encore, ce qui est ridicule, parce que monsieur, même s'il ne fait pas la vaisselle, de toute façon il est devant son ordinateur, il n'est plus devant sa télé, il n'a plus de pipe, il a une vaporette, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment très 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 passéiste encore la façon dont on enseigne certaines choses aux enfants. Et le troisième, effectivement, et dernier chez Fayard, c'est La vie sexuelle de Lorenzaccio. Alors ça, c'est juste parce que j'avais des vacances, et pendant ces vacances, j'étais prête à plein de trucs chiants, notamment lire énormément de livres pour faire des chroniques. Et je me suis dit, ben non, en fait, je vais pas faire des trucs chiants, j'ai fait un truc qui me fait envie. Et une fois, dans les années, j'étais allée au Puce de Montreuil, et j'ai trouvé un exemplaire de Lorenzaccio. daté des années 50 et qui était pour les collégiens. Or, il faut savoir que quand on sortait un bouquin pour les collégiens, on l'expurgeait à l'époque. Il n'était pas question de donner le texte tel quel, on allait d'abord pour vérifier qu'il n'y avait rien de malsain. Et donc, quand on enlève le sexe de Lorenzaccio, il reste trois phrases. Je vous le lis. Alors, il fait un froid de tous les diables. Patience, Altesse, patience. Mais il est minuit. Nous n'avons avancé que moitié. Qui êtes-vous, Ola ? Arrêtez ! Allons donc. Il sort. Voilà. Donc la pièce a été comme ça. Je me suis dit, bon, c'est tout de même étrange. Donc je suis allée rechercher Lorenzaccio. Et effectivement, ça ne parle que de sexe. Et c'est pour ça que Lorenzaccio, c'est une pièce qu'on connaît encore, qu'on étudie encore et qu'on joue encore. C'est que si des dehors extrêmement bien écrit, ça ne parle que de cul et de violence et de politique. Et de cul et de violence érotisée, c'est-à-dire de violence avec du sexe. Donc, comme dans la petite collection, on les avait déjà fait, je ne sais pas si vous connaissez, La vie sexuelle d'Emmanuel Kant. C'est Jean-Baptiste Botu qui a écrit La vie sexuelle d'Emmanuel Kant. Jean-Baptiste Botu est un philosophe qui a créé un mouvement nommé le botulisme, que Bernard-Henri Lévy a cité très sérieusement dans un de ses livres, jusqu'à ce qu'on lui éclate de rire au nez en disant Jean-Baptiste Botu est un canular. Qui est écrit par une bande de potes qui avaient décidé de faire un truc rigolo. Et donc, ils ont écrit La vie sexuelle d'Emmanuel Kant, c'est-à-dire la vie sexuelle de votre table à manger, comme Emmanuel Kant n'avait pas de vie sexuelle. Emmanuel Kant refusait même de toucher son corps. Et le soir, quand il se mettait au lit, il avait une façon de s'entortiller dans ses couvertures qui était très particulière pour justement ne pas avoir de contact avec lui-même. Donc, Jean-Baptiste Botul a réussi à tenir quand même à peu près l'épaisseur de ce bouquin sur la vie sexuelle d'un homme qui n'en avait pas, et le bouquin est drôlement bien, ça je vous recommande, si vous trouvez La vie sexuelle d'Emmanuel Kant, surtout n'hésitez pas. Et j'ai décidé de faire pareil avec Lorenzaccio, sauf que Lorenzaccio a cette particularité que lui, sa vie n'est que sexuelle. Voilà, ça m'a paru amusant, et il y a des tas de gens que ça fait rire aussi, ce dont je suis ravie. Donc, et tout ça pour dire que je n'ai pas une carrière spécialement science-fictive orientée avec une idée très précise de ce que je dois faire, et des cycles que je souhaite achever, mais que je me contente d'obéir aux livres qui ont l'intention de se faire écrire par moi. Voilà.
Oui, ça me paraît. Tu as oublié de dire que tu avais rencontré Catherine Dufour un jour. Quand tu as fait ton bouquin sur les princesses, tu as rencontré Catherine Dufour.
Oui, j'ai l'homonyme. Quand je tape Catherine Dufour sur Google, il y a une espèce de créature de rêve de 20 ans, somptueusement musclée, et qui est une surfeuse, et je crois que c'est la championne du monde de kitesurf, c'est la championne du monde, c'est-à-dire championne du monde tout genre confondu. Et elle est juste sublime, effectivement. J'ai une homonyme, que c'est pas facile comme comparaison.
Et tu l'as interviewée pour faire sa biographie dans...
Non, elle m'a pas répondu.
Ah bah c'est bien la peine. Ah
bah oui, c'est bien la peine. J'ai mis quand même. Parce que surfeuse, effectivement, c'est un métier auquel les filles pensent peut-être pas assez.
Oui, donc effectivement, alors là, on est au cœur de ton féminisme, qui se lit pratiquement depuis le début de ton travail, même quand quand les yeux buvent. Les yeux buvaient. Quand les dieux buvaient, c'est tout à l'heure que tu as dit qu'on allait faire des yeux augmentés, peut-être. Donc, quand les dieux buvaient, déjà, il y a une marque féministe très forte, et elle culmine, peut-on dire, de livre en livre. Dans le goût de l'immortalité, la seule qui tente un peu de résister au dictateur est une fille. Alors qu'une maladie abominable, dont j'ai oublié le nom, décime les populations dans les bas-fonds.
C'est une
chiasse. Oui, voilà. Et c'est une fille qui tente de résister au dictateur. Alors, ça explose dans, effectivement, cet ouvrage qui semble une sorte de guide des métiers, mais qui est beaucoup plus qu'un guide des métiers, puisqu'il pose le problème, effectivement, de la façon dont on oriente encore les filles, enfin, on est au cœur d'une problématique sociale, comment encore on oriente les filles régulièrement vers des métiers littéraires et les garçons vers des métiers scientifiques, parce que ça paye plus du côté des sciences que du côté des lettres, c'est bien connu, des lettres et des matières afférentes, bien évidemment. Donc, comment il y a une espèce de performance de genre, comme ça, qui sont encore rendus obligatoires par les parents auprès des élèves. Ce qui fait que, par exemple, certains départements de SRC, hein, le réseau et communication, s'arrangent pour embaucher, pour avoir des filles parmi les élèves, ils s'arrangent pour embaucher quand même des élèves sortant de filières L. Avec un petit rattrapage, elles arrivent à rentrer dans les filières en question. C'est dire à quel point c'est un livre utile aujourd'hui. Et donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cet engagement féministe ?
Oui, alors pour ce qui est de la féminisation des métiers, alors là, c'est pas la peine de me demander à moi. Il y a une revue qui est faite par Madame Marouani, qui existe depuis 20 ans, qui s'appelle Travail, Genre, Société, TGS, voilà. Il doit y en avoir des numéros en ligne sur Internet. Donc si vous avez envie de savoir comment et pourquoi les petites filles vont vers coiffure et les petits garçons vont vers maître chien, c'est marqué dedans. Ça fait 20 ans qu'ils font des études qualitatives et des études quantitatives et qu'ils interviewent des gosses à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, à 14 ans, à 16, à 18, à 28, à 38, etc. Ils mettent tout ça en forme et on voit effectivement tous les mécanismes qui sont démontés là-dedans. Oui, il est évident que la société dit aux petites filles, tu feras ça, et aux petits garçons, tu resteras ça. Et vous pouvez être les meilleurs parents du monde, acheter des poupons à votre fils, acheter des petites voitures à votre fille. Vous êtes tel le fétu de paille face au vent violent de la société. Ça, y a pas... Et donc, il faut qu'il y ait un travail, effectivement, extérieur. Moi, c'est pas parce que j'éduque mes fils de façon à ce que ça soit pas des gros boulets qui sachent pas faire cuire un œuf, dans un désir d'autonomie. Je me suis dit, je ne peux rien, moi, toute seule, il faut que j'intervienne comme être social, notamment dans mes livres, mais aussi dans mon travail, où j'essaye autant que possible de promouvoir les filles aussi bien que les garçons. Et je traque, moi, ma propre misogynie dans mon nombril, parce qu'évidemment, ce genre de choses passe d'abord par une remise en cause de soi-même. Mais de toute façon, on dit que toutes les femmes deviennent féministes le jour où elles reçoivent leur première fiche de paye. Et effectivement, moi, à l'époque, je me disais, mais féministe, c'est un combat d'arrière-garde. Et puis, j'ai touché ma première fiche de paye. Donc, ils avaient embauché un wagon de jeunes. Il y avait, je ne sais pas, des garçons, des filles. On a regardé nos fiches de paye. Toutes les filles étaient payées 30% de moins que les garçons. Donc, moi, je ramène toutes les filles autour de moi et je veux voir le responsable RH en disant, ah, bah, c'est une honte. Et alors, il me dit, comment? Je lui dis, mais enfin, on est payé moins qu'eux. Alors là, il recule, il me dit, comment? Alors, je lui dis, nous réclamons que vous nous payez autant que les garçons. Et là, il me dit, nous. Et je me retourne, elles étaient toutes barrées, j'étais toute seule, et bien j'ai eu toute seule mon augmentation, et j'aurais dû me faire virer toute seule. Voilà, c'est pour ça que depuis, je me dis, on a aussi beaucoup à balayer devant notre porte.
Alors, il est peut-être temps de passer la parole à la salle, donc je vais passer mon micro, et si vous avez des questions à poser, qui aimerait poser une question? Personne? No question?
On va retrouver les questions.
Bon, je continue alors.
Non, ouais, vas-y, comme ça.
Juste comme ça pour savoir, vous avez fait l'écriture pendant vos vacances ou avec l'écriture de l'écriture? Vous aviez pour la vie sexuelle, je ne sais plus, voilà. Vous aviez l'écriture un peu, vous aviez décidé de ne pas les faire. Vous avez fait au final ou pas?
Oui, non, j'ai fini par les faire. Non, mais c'est une bonne source d'inspiration quand on a un certain nombre d'obligations, ça nous est arrivé à tous, à un moment de faire « Yaha !» et c'est là où on réussit les meilleures choses. C'est quand on envoie un petit peu paître toutes les obligations. Évidemment, il ne faut pas faire ça trop souvent.
Juste pour savoir, vous avez quoi vos prochains projets d'écriture, si on a déjà?
Alors, oui, donc c'était la question qui fâche. Merci de la poser. Non, en ce moment, moi, j'ai des livres qui me tapent sur l'épaule et je ne retourne pas parce que je n'ai pas envie de les écrire. Et voilà, j'aimerais ouvrir de nouvelles portes et elles sont très désagréables. Par exemple, je suis en train de réfléchir après certaines interviews que j'ai pu faire. J'ai fait des interviews notamment de femmes qui, je sais pas, ont fait une qui a fait ses études au Caire. Bon. Et j'ai une copine qui avait fait ses études au Caire dans les années 90. Elle me dit, c'est chaud bouillant dans la rue pour les femmes. Et là, j'ai demandé donc à une jeune femme donc, en 2012. Elle me dit, mais c'est même pas chaud bouillant, maintenant c'est juste dangereux, juste on n'y va plus, quoi. Et je lui dis, ah bon, mais c'est quoi? C'est encore les abrutis islamistes. Et elle me dit, non, mais même plus, ils font semblant d'invoquer la charia, ils font des commandos anti-femmes. Voilà, même plus prétexte. Le but du jeu, c'est de tuer de la gonzesse. Et je me suis dit, cette haine jusqu'au boutiste m'a fait penser à le livre de haine jusqu'au boutiste des femmes, qui est quand même American Psycho, que je considère comme à peu près le meilleur livre du monde, et qui est un livre qui est rempli d'une haine. C'est bien écrit, quoi. Et je me suis dit, ça manque de l'autre côté, quoi. Une femme qui découperait des hommes en petits morceaux pour faire des bulles de Noël avec leur coucougnette. Donc quelque chose d'inverse, mais comme les hommes sont censés être des grands prédateurs sexuels, comme le dit Eric Zemmour, donc c'est pour ça que l'American Psycho découpe des femmes en morceaux pour coucher avec, alors que les femmes ont plutôt la réputation de faire de la décoration d'intérieur, donc pour imaginer une femme qui ferait de la décoration d'intérieur en découpant des hommes en morceaux. Donc je pense que ça, c'est le moment d'écrire ce genre de choses, voilà. Vous allez me dire, est-ce vraiment nécessaire? Je vais vous dire, c'est un peu comme le Scum Manifesto, c'est écrit par Valérie Solanas. C'est Scum, c'est Society for Cutting Men, ça a été écrit dans les années 60, Valérie Solanas, c'était une femme, qui a écrit un livre qui est un concentré de mise en œuvre. Où elle écrit, oui, l'homme, cette créature arriérée et pitoyable, enfin bon, on dirait Baudelaire parlant des femmes, on dirait Schopenhauer parlant des femmes. Alors donc, la littérature misogyne, comme ça, il y en a des tours, ce que Manifesto épais comme ça. Mais bon, ça a été écrit une fois, ça a le mérite d'exister, comme ça, c'est pas la peine d'y revenir. Puis après, elle a collé deux pruneaux dans le buffet de Warhol, et je crois qu'elle a fini par se suicider. Enfin bon, c'est un personnage, Valérie Solanas. Et Andy Warhol, quand il était allongé par terre avec des trous plein à la poitrine, il y a un petit pote qui s'est penché et qui lui a pris la main en disant « Andy, ne meurs pas !» Et Andy Warhol, il l'a regardé et il lui a dit « Ne me fais pas rire, ça fait mal !» Bon, comme quand Andy Warhol arrivait à garder son sens de l'humour, même dans des conditions pénibles. Et je me dis, il faudrait qu'une femme, une fois, écrive comme ça un European Psycho avec une femme à la place de l'homme, quelque chose d'inverse. Parce que ça permet de voir l'absurdité du propos. Donc, si j'étais une femme bien, j'écrirais ce livre. Et je n'ai aucune envie de plonger le nez dans ce genre de psychisme, aucune envie de décrire des choses comme ça. Je sais que si je veux écrire quelque chose comme ça, il va falloir que j'achète des poulets pour les découper en morceaux, pour voir ce que ça fait, de découper, parce que je n'ai quand même pas acheté des gens pour les découper en morceaux. Bon. Et j'ai pas envie. Et j'ai comme ça deux ou trois livres qui me tapent sur l'épaule depuis quelques années. Et maintenant, il n'y a plus qu'eux, ils font grand bruit, et je suis en train de faire esquive. Donc c'est pour ça que maintenant je me plonge dans la chronique d'ouvrages difficiles pour le monde diplomatique. Ça me donne un bon prétexte pour ne pas continuer ta propre
exploration de la violence des femmes. Il y a eu un bouquin sur la question, hein, penser à la violence des femmes, et que Carly, Colline Carly et Geneviève Pruvot, voilà deux filles du CNRS, Geneviève Pruvot avait écrit avant quelque chose sur la féminisation de la fonction policière, et notamment le fait que les femmes traditionnellement attachés de par l'expérience du genre qu'on leur infligeait à défendre la tendresse, le care, l'amour, etc., passaient du côté de la violence légale en toute tranquillité, c'est-à-dire devenaient policières. Et elle a fini par montrer comment c'était encore piloté par des hommes, comment cette violence féminine était encore canalisée et pilotée par des hommes, c'est-à-dire qu'elle n'était pas encore reconnue comme appartenant à la catégorisation femme. Alors elles ont été très controversées, les deux, hein, d'avoir écrit ce livre sur la violence des femmes, mais c'est pourtant quelque chose qui, je pense, t'intéresse.
Mais je l'ai, ouais, on me l'a offert pour mon Noël, et je sais qu'il y a quand même eu des bouquins là-dessus, il y a Dirty Weekend de Hélène Zahavi, où elle décrit une femme qui, à force de se faire agresser, finit par devenir hargneuse, et finit par tuer quelques bons hommes. C'est pas le côté qui m'intéresse, moi je veux pas du tout une victime, je veux une femme qui aime égorgifier, comme il y a des hommes qui aiment égorgifier, on ne sait pas pourquoi, mais ça les fait plus marrer que d'aller aux courses le week-end, quoi. Et voilà, cette autonomie dans la bêtise et la méchanceté reste encore pour moi à mettre en scène. Et ce qui est très marrant avec Hélène Zahavi, c'est une femme que j'ai mis dans mon guide des métiers, je crois que c'est la fiche écrivain, c'est qu'elle a écrit ce truc-là, en 95, c'est une fille londonienne. Elle a eu un franc succès, c'est-à-dire je crois carrément le Parlement voulait faire interdire son bouquin, c'est un succès de scandale. Du coup, elle s'est faite tellement agresser qu'elle est passée à Paris et elle a disparu. Alors si vous avez des nouvelles d'Hélène Zahavi, vous pouvez toujours scruter sur internet, moi j'ai cherché la dernière photo qu'on a d'elle, elle est en noir et blanc, elle est dodo et elle date de 2000.
Hélène Zahavi est une héroïne perdue de la littérature anglaise. Personne n'a de nouvelles d'Hélène Zahavi ici?
Oui, justement, ça, ça m'amuse parce que je trouvais que l'un des exemples de littérature où une femme devient un serial killer pour se venger d'une agression de viol, en fait, c'est Hélène Zahavi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a quelques années, en 91, en fait, quand j'ai publié son livre. Mais j'ai rencontré en 93, elle a publié son premier livre en 91, donc Dirty Weekend. Et ensuite, elle a publié deux autres romans. Et je viens d'apprendre, parce que vous n'avez pas cité, qu'elle a publié un roman en 2013.
Ah bon?
Donc elle a continué sa carrière. Elle est passée à Paris, elle est partie des expats sur le parisien anglais à Paris.
Oui.
C'est une amie de Charles Palliser, donc un écrivain britannique aussi, qui lui a disparu par contre de la circulation, du Coréal en tout cas. Et Hélène, par contre, a continué à écrire apparemment, mais ça faisait un certain temps qu'elle n'avait pas publié depuis 2003 apparemment. Donc 10 ans entre son avant-dernier et son dernier.
D'accord, ben merci. Ben écoutez, je vais m'intéresser à ça parce que j'aimerais bien la rencontrer.
C'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Ça va au-delà de ce qu'on pourrait penser. C'est pas seulement un roman de scandale, c'est vraiment une réflexion intéressante sur la violence au féminin.
Oui. Mais elle-même, elle donne une bonne leçon à un moment. Son héroïne, elle s'appelle Bella.
Bella.
Ouais. Comme dans Twilight, elle fait marrer. Et c'est de l'humour rétroactif. Et elle dit elle-même, c'est parce qu'en fait elle, c'est une grosse chiffre molle, elle se défend jamais. Et elle dit, on ne possède que ce qu'on défend, et comme je ne me défends pas, je ne sais pas me défendre, je ne m'appartiens pas. Voilà. Et j'ai trouvé la leçon assez rude, mais salutaire. Par contre, effectivement, son roman est carrément, ouais, donc, envie de mourir, faut prévoir un bon Gaston Lagaffe derrière.
Dans le même ordre d'idée, il y a un voyage. C'est connu, je crois qu'il y a un numéro qui reste d'une revue universitaire qui est sortie récemment sur les femmes criminelles. Il y a en particulier, je ne sais plus son nom exactement, mais ça a été adapté au cinéma, ça s'appelle Monster.
Oui.
C'est l'histoire de Hélène Duernau, je crois, c'est ça, qui était une femme homosexuelle, donc qui a été apparemment violée ou attaquée ou agressée, etc., qui s'est vengée des hommes en des violences sérieuses.
Oui, c'est oui. Tout à fait. Monster, oui, ben, je l'ai mise dans mon livre, au métier serial killer. Et effectivement, elle n'a pas une vie facile, mais elle a tué, je crois, un homme par mois pendant 10 mois, puis elle s'est fait choper le 11e mois. Il y a un corps qu'on n'a pas retrouvé. Elle les a remettés froidement, 7 pruneaux dans le caisson. Et effectivement, elle, c'était un bon profil de monstre froid.
Bonjour, tout à l'heure vous parliez de votre formation d'informatique et maintenant on fait de la littérature et des articles. Qu'est-ce qui vous a amené? Est-ce que vous travaillez toujours dans ce domaine-là? Et sinon, pourquoi en fait? Est-ce que c'est le machisme du métier qui vous a fait changer?
Non, pas du tout. Non. Moi, je vais pas souffrir de machisme particulièrement. Et d'ailleurs, alors donc je fais les deux métiers car, sachez-le, quand on écrit un livre, globalement, moi ça me prend un an et demi. Il y en a qui en font un tous les 6 mois, moi c'est un an et demi. Ça rapporte 10 000 euros. Globalement et en moyenne. Et encore, je trouve que je m'en sors bien et par rapport à ce que ça va être dans quelques années, c'est très bien. Je vais pas faire un topo sur l'aspect cataclysmique des droits d'auteur tel qu'il est, puisque maintenant l'écriture se retrouve dans la même situation que la musique il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'on ne peut juste plus manger avec. Ça, j'en ai un peu plein les journaux, je ne vais pas vous en reparler. Mais enfin, si on fait rapidement le calcul, on ne peut pas en vivre. Et moi, je n'ai jamais voulu en vivre de toute façon, parce que j'ai toujours eu un problème avec l'autorité. Et je me suis dit, si je fais mon gagne-pain de ce que j'aime, ça va être cataclysmique. Et j'ai aussi d'ailleurs fait une filière scientifique parce que j'étais vraiment très bonne en lettres. Et je ne supportais pas quand mes profs de français me corrigeaient parce que je savais mieux qu'eux. Moi, quand je commente une poésie, il ne faut pas venir me dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut l'apprendre. Et donc voilà, donc j'ai une espèce d'orgueil démesuré dans certains domaines, il ne faut pas venir me faire suer, donc je préfère travailler dans d'autres domaines. Effectivement, moi, en informatique, quand René Marc vient me dire ton algorithme c'est de la merde, il n'y a aucun problème, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Donc j'ai toujours fait les deux, de toute façon c'est une nécessité économique, mais aussi par reconnaissance de mes propres limites. J'ai un petit problème avec l'autorité, donc j'essaye de me débrouiller autrement. Alors évidemment, ça fait des journées un peu compliquées de faire à la fois de l'informatique et écrivain, mais je suis workaholic, c'est-à-dire de toute façon rien faire, ça m'angoisse, donc c'est pas un problème.
Tu t'écris beaucoup dans le métro?
Oui, alors là par contre, oui. Contrairement à des gens comme Alain Damasio qui ont besoin de passer 7 ans sur une île déserte pour accoucher d'un chef-d'œuvre somptueux, moi je peux écrire sur mes genoux dans le métro, ou si j'ai une idée dans les toilettes, je l'écris sur du PQ avec mon stylo à lèvres. Parce que là, oui, j'écris très facilement. J'ai beaucoup étudié et révisé mes examens dans les bars parisiens, donc j'ai une capacité à m'abstraire du bruit ambiant. Voilà, ça c'est les avantages de Paris.
Si on veut, oui. Et quand elle dit que ça rapporte 10 000 euros, c'est dans le meilleur des cas, bien évidemment. Hein. Moi, pour ma part, j'ai dû écrire, je ne sais pas, 16 ou 17 livres, et si ça m'a rapporté 300 francs, c'est bien le maximum. Elisabeth Venarbeau.
Catherine, ce matin, j'ai remarqué que Jeanne Lebas décrivait comme écrivain. Tu utilises aussi le mot écrivain. Est-ce que c'est par défaut, par revendication de oui, moi je peux être un écrivain comme elle, mais il me semblait qu'elle avait dépassé ce stade-là, ou bien quoi?
Tu veux dire par rapport à écrivaine?
Oui,
réflexe.
Même
pas.
Réflexe. Ah bon, vas-y. Explique-moi.
J'ai le même problème dans mon guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse. Au dos de la couverture, on dit que je suis auteur E et ingénieur sans E. On a passé trois quarts d'heure au téléphone, moi j'ai dit je veux deux, un E à chaque, hein. Et alors là, évidemment, en face de moi, j'avais quelqu'un qui avait le dictionnaire de l'Académie française qui m'a dit, bien non, on peut dire une ingénieure, mais on ne met pas deux ingénieurs, et on peut dire une auteure, mais pas deux auteurs. Là, je lui expliquais que les informaticiens, les académiciens étaient une bande de vieux birbes qui avaient une main mise sur la langue française. Là, elle m'a répondu que grâce à ça, la langue française pouvait être parlé par tous les francophones, alors que la langue anglaise, qui n'est pas structurée par une académie, eh bien, on ne se comprend pas entre Londres et Dublin. Ça nous a pris une heure. Et à la fin, elle a coupé la part en deux, elle a mis deux à hauteur et pas deux à ingénieur, alors on peut faire l'inverse. Bref, c'est n'importe quoi. Donc on devrait dire écrivaine, on devrait dire auteur, etc. Ouais. Non, mais alors ça va venir, à mon avis, dans 2 ans, je suis total au point. Là, pas encore.
Ça fait 30 ans maintenant, depuis le temps que ça fait 20 ans. Ça fait 30 ans que Benoît Groulx réclamait écrivaine. Tout le monde se gaussait. Et les dernières fois que je suis venue en France, bon, j'ai entendu des gens dire écrivaine et personne ne ricanait. Alors je me dis, bon, ça y est, c'est arrivé. Puis là, j'arrive, puis vous continuez à dire écrivain. Alors là, je suis comme une angoisse existentielle. Quoi. Non, parce que écrivaine au Québec, c'est courant.
Non, non, t'as totalement raison.
Ouais.
Alors à part Carrère d'Encausse, qui est une historienne qui a été élue académicienne, et alors elle est secrétaire perpétuelle, et elle veut qu'on l'appelle monsieur le secrétaire perpétuel, et elle y tient, parce que pour elle c'est vraiment de l'ordre de la déchéance d'être traitée de femme.
Mais ça lui fait une transidentité à peu de prix, hein, finalement.
Oui, surtout n'importe qui.
Ça coûte moins cher que les opérations. Il y a une dernière question avant qu'on passe à la table ronde suivante. Plus rien? 5 minutes encore, je croyais que c'était fini. Donc, oui. Donc on peut, effectivement, tu parlais tout à l'heure de Valérie sur la main, je suis demandée si c'était un texte ironique. Je ne sais pas ce qu'elle t'en
pense. Ah non, elle était très sérieuse.
Parce qu'il y a quelque chose d'une sorte d'ironie puissante et presque sombre dans ce texte.
C'est un peu comme quand Baudelaire parle des Belges, quoi. On sent qu'il se fait chier en Belgique. Et puis il n'a pas une frite, puis il fait moche, et puis là, ça a des syphilis qui va d'ailleurs l'abattre dans les 2 jours. Et il écrit des trucs sur les Belges plus, les Belges sont bêtes, enfin bon, on dirait des proches, quoi. L'ennemi est bête, il croit que c'est nous l'ennemi, alors qu'en fait c'est lui, j'en ai encore. Voilà, quand on est de mauvais poil. Voilà, Valérie Solanas, elle était complètement givrée, je pense que c'est juste pour ça.
Mais c'est vrai qu'on voit à quel point, par exemple, les programmes scolaires de lycée en matière de littérature sont haineux. Par exemple, ils présentent Gilgamesh, qui est un violeur, il faut le rappeler, comme héros absolu extraordinaire. On apprend ça aux enfants de 5e. Et l'idéal féminin, c'est Salomé, la salope coupeuse de tête. Donc d'emblée, on raconte ça aux enfants comme étant les... Ils appellent ça textes fondamentaux en plus. Textes fondateurs. Et ça continue avec Zola, monté au nu alors qu'il traite Nana de mouche à merde et ainsi de suite. Enfin, ces textes sont d'un sexisme, d'une dégueulasserie. Victor Hugo, n'en parlons pas. Et c'est ça la littérature française. Donc moi, j'ai des étudiantes derrière la porte qui disent « Non mais on en a marre, c'est pour ça qu'on préfère la fantaisie des vampires. Au moins, il y a des filles, quoi, et des filles qui sont chouettes. » Et finalement, la littérature française classique est en train d'être détrônée par l'imaginaire. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose.
Non, mais la littérature française classique, donc Zola, Maupassant, etc., quand vous la reprenez, franchement, c'est bien écrit. Alors, le propos est souvent pathétique. Maupassant, ils sont tous lamentables. Alors, ils n'aiment pas les femmes, de toute façon, ils n'aiment pas les Noirs, ils n'aiment pas les Arabes, ils n'aiment pas les pauvres. Et c'est pire qu'ils ne les aiment pas, ils estiment que c'est vraiment pas la même race, quoi. Donc ils sont graves dans leurs propos. Tout le propos de Zola, quand même, c'est de démontrer que les caractères acquis deviennent innés. Voilà. Donc il a faux d'un bout à l'autre de ses
écrits.
C'est
ça qu'on fait lire à nos enfants, c'est une forme de maltraitance.
Oui,
quand
on
même.
S'en fout, ils écrivent de façon sublime. Quoi. Là, moi, je viens de relire Bel Ami de Maupassant, que mon fils avait à lire et que j'ai essayé. Et c'est écrit, voilà, c'est beau, quoi. C'est beau comme Proust, quoi. Une page de Proust, putain, c'est bien écrit. Alors oui, le propos est débile, mais on n'a encore rien trouvé de mieux écrit. Faut être un peu au-dessus de son sujet.
Je sais pas.
Je suis pas très sûre, mais enfin, c'était dit.
Alors mon beau-fils qui dit « Ah, oh, c'est plein de descriptions », je dis « Bah oui, alors là, ça par contre, c'est pas les descriptions. » C'est dommage, parce qu'il y a que ça qui vaut le coup dans cette littérature.
On vit sur la littérature du 19e, et la littérature du 19e ressemble au cimetière du Père Lachaise, quoi. Chacun a sa petite maison bien placée, avec le nom du mec bien écrit, famille Léon machin, et voilà quoi, c'est ça le patriarcat finalement. Si on veut voir ce que c'est que le patriarcat, il faut se promener au Père Lachaise, hein, on a la vision parfaite de ce que ça peut être, d'une certaine façon.
Alors si vous voulez vraiment une opposition de genre sur une histoire de fesses du 19e siècle, vous avez Georges Sand et Musset qui ont couché ensemble. Ils étaient déjà jeunes, beaux et célèbres, c'était des people, donc quand ils s'envoyaient des lettres, ils savaient très bien que ces lettres finiraient publiées dans la Pléiade, voilà, ou Parade. Il a écrit ses confessions d'un enfant du siècle, où il raconte son histoire avec Georges Sand. Alors, lisez ça, et après, lisez Elle et lui de Georges Sand, que vous trouverez en PDF, en ligne, où elle raconte exactement la même histoire vue de son point de vue. Et la comparaison est juste excellente. C'est vraiment, ils essayent à la fois de faire semblant qu'ils aiment l'autre et qu'ils sont gentils, ils lui mettent des vieux coups en vache derrière la nuque. Et c'est très marrant de lire les deux successivement, mais par contre, effectivement, il y en a un qui vous tombera moins des mains que l'autre, c'est quand même Musset, qui écrivait mieux que Georges Sand, qui était verbeuse comme l'était son temps. Alors que Musset était probablement plus feignant, donc il se perdait moins dans des tirades. C'est assez marrant, on s'aperçoit que les défauts de certains auteurs font finalement leur qualité. Chauderlot de Laclos, il a écrit Les liaisons dangereuses, qui est un livre sec et magnifiquement sec. Alors qu'à son époque, on est pour dire oui, il leur fallait trois pages. Simplement, il était en garnison, il n'avait pas de papier. Donc, il a été obligé de faire très court. Et moi, j'ai vu à la BNF, parce qu'à la BNF, j'ai le droit de déposer mes manuscrits. Je suis très fière. Et en plus, à chaque fois que vous déposez un manuscrit, vous avez un bonus. On vous permet de toucher un manuscrit. Donc, j'ai pu toucher le testament d'Évariste Galois, le manuscrit de Salambo. Et le manuscrit de la planète des singes. Et bien, le manuscrit de la planète des singes, dessus, il y a marqué la planète des X. Parce que quand il l'a écrit, il ne savait pas encore si ça allait être des singes ou des ragondins. C'est authentique. Et j'ai pu toucher le manuscrit de Chauderlot de Laclos. Je ne vois même pas comment il se redisait. C'est écrit tout petit, donc ça part tout en haut. Parce qu'il n'y avait pas de papier. Donc, du coup, c'est pour ça que son bouquin est super sobre. Et je pense que si Musset était meilleur que Sand quand il écrivait, c'est parce qu'il était une grosse feignasse qui ne se redisait pas. Et du coup, il y avait effectivement un souffle et une sobriété qui n'a pas séché Sand. Évidemment, c'est que mon opinion, bon Dieu, j'en suis arrivée là. Moi.
Je ne sais pas, mais on est loin effectivement de ton travail, mais là, je crois qu'on a fini. Donc, merci beaucoup pour votre
merci
présence.
Merci à tous. Hein.
Ça est comme ça non plus.